dans la colonne des esprits, Eric Cartard m'a posé une question quand même, parce que, bon, certes, ils ont contesté la théologie dogmatique catholique,
oui,
ils ont quand même oui, dans le domaine esprit, et Cartard a contesté la théologie dogmatique protestante, mais les cathares contestant la théologie dogmatique, ils ont donné naissance aussi à un certain dogmatisme. Chez cathares, c'était pas très rigolo.
Maintenant,
on devenait pur et il fallait plus du tout dévier d'un point de grenouille. Hein. Alors,
si j'ai laissé
à nouveau une sorte de.
Oui.
De flou qui se reste à ce moment-là entre au niveau d'esprit.
Oui, en fait. Oui. Si j'ai laissé entendre que ici tout est beau et tout est gentil, non, c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Il y a des excès, des intégrismes, nombreux ici, mais comme il y en a ici, on trouve les mêmes types d'excès.
Donc alors c'est pas une solution.
Bien sûr, bien sûr.
S'il y a des intégrismes, c'est pas une.
Mais c'est une tentative de comprendre le monde qui n'est pas le même monde qu'on essaie de comprendre ici.
Opposition simplement de rationalisme et théologie.
La théologie est ici. Ici, on a une forme
de
spiritualisme ou de.
Oui. Oui, mais normalement, qui dit spiritualisme.
Il essaie de comprendre le monde de l'esprit. Pardon ?
Normalement, qui dit spiritualité dit non-intégrisme, en fait.
Mais normalement, mais c'est pas ce qu'on a vécu ici, puisque ici, on a décidé que c'était comme ceci, et si vous n'êtes pas dans les rangs, eh ben, soit on vous brûle, soit on vous exclut.
Est-ce qu'une piste ne pourrait pas être, c'est l'art, créativité, l'art, une piste pour être en même temps dans le domaine de l'esprit, du spirituel,
oui.
Et puis être dans une grande liberté, une grande ouverture, l'art, enfin, la créativité.
Certainement. C'est-à-dire partout, je pense, dans tous les registres où il y a un espace de liberté possible, il y a, je crois, la possibilité d'un progrès. Donc, dans le domaine de l'art, à condition qu'on sorte des chapelles, c'est toujours pareil. À ce moment-là, il y a une possibilité d'épanouissement ou de rechercher des voies un peu nouvelles pour donner du sens à l'expérience qu'on a dans le monde d'aujourd'hui. Et à l'expérience qu'on réserve pour les générations qui vont nous suivre. Alors, c'est vrai que le terme de spiritualité, on peut. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Moi, c'est pas de l'intégrisme, la première.
Peut-être la date la plus critique, c'est la date du. Alors là, c'est un peu. Du 8e concile.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, il y a le premier concile, qui en 325, je crois, le concile de Nicée. Qui établit le canon pour la première fois. Le 8e concile, qui est le dernier concile œcuménique, si mes souvenirs sont exacts, après la bagarre entre Byzance et Rome, c'est plus réconciliable. Au 8e concile, il y a une décision de l'Église qui a des conséquences anthropologiques considérables. Jusqu'au 8e concile, l'anthropologie qui était adoptée ici, c'était l'anthropologie encore des Grecs, c'est-à-dire qu'on considérait l'être humain constitué de trois registres, de trois mondes, qui est le registre physique, le registre de l'âme et le registre de l'esprit. On trouve ça chez Platon, encore chez Aristote, chez tous les, si tu me corrigeras si c'est pas vrai, mais on trouve cette anthropologie qui est l'anthropologie dominante. Donc, l'esprit. Tout être humain est doté d'un esprit jusque-là. Au 8e concile, on décide que ce ne serait plus le cas, parce que c'est trop dangereux, croit-on, de laisser entendre que tout être humain peut s'épanouir dans le domaine de l'esprit, parce que c'est le domaine d'une certaine forme de liberté. Donc on décide à partir de là que désormais, il n'y aura que le corps et l'âme. Et aujourd'hui, on fonctionne...
Quelle année, 8e concile ?
869, je crois. C'est considérable comme décision.
Et c'est l'Église qui a décidé ça.
Oui, au concile. Oui. Donc, vous comprenez que cette décision, alors à partir de là, on dit, ben voilà, tout être humain est constitué d'un corps et d'une âme. À ce moment-là, toute cette partie-là devient impossible à construire, puisqu'on refuse à l'être humain individuel un certain nombre de, comment dire, prérogatives ou une certaine liberté dans ce domaine-là. Donc, on ferme l'accès à cette possibilité.
C'est une récession.
Il y avait une question. Oui.
Est-ce qu'on comprend bien comment ta proposition se distingue? Ce n'est pas simplement un retour au modernisme.
Non.
Donc, c'est pas, ça ne peut pas être un retour au Bauhaus.
Non.
Mais on ne comprend pas bien en quoi ta proposition se distingue de la proposition postmoderne, pour l'instant.
Parce que je crois que la proposition postmoderne, elle est encore dans ce schéma. Elle est une réaction à ce qui venait ici. Elle ne laisse pas entendre un autre espace possible. Le terme même le dit, n'est-ce pas ? Nous sommes postmodernes, donc ce n'est pas référence au modernisme qu'on se situe. Donc il n'y a pas de... Première chose. La deuxième chose, c'est que pour le moment, dans les propositions postmodernes, on est plus en train de déconstruire, on est encore en train de déconstruire le monde précédent, et on n'est pas encore arrivé, sauf peut-être dans certains domaines, là ça commence quand même à, on commence à se poser des questions, à reconstruire quelque chose de nouveau. On est encore, comme on dit en architecture, dans le déconstructivisme, ou dans la déconstruction, comme on dit en sciences sociales. On n'est pas encore mûr, peut-être la déconstruction n'est pas encore assez radicale pour pouvoir penser à quelque chose de nouveau, de suffisamment nouveau pour sortir de ce carcan manichéen. Donc, c'est dans ces mesures que je crois que le postmoderne reste encore dans ce schéma. Il y a très peu, à ma connaissance, de propositions dans le domaine ici, chez les postmodernes, sinon cette espèce de syncrétisme New Age spiritualiste, c'est la seule chose qui correspond au postmodernisme ici, pour le moment, à ma connaissance en tout cas. Oui. Oui, monsieur, avant.
Oui, moi, je reste un petit peu dans votre synthèse, là, oui. Qui est intéressante. On fige un petit peu le religieux dans le dogmatique.
Oui.
Or, le dogme et la mystique,
oui.
À l'intérieur des communautés de foi,
oui.
se marient souvent, je veux dire. Et ce n'est pas... le dogme et la mystique ne s'opposent pas.
Non, pas toujours.
Voilà, oui. Je voudrais pas trop qu'on caricature
non.
La colonne centrale.
Vous avez raison de me reprendre là-dessus. J'ai exagéré un peu de façon caricaturale et j'ai peut-être cité les conciles les plus dogmatiques. J'aurais pu mettre Vatican I aussi, mais on peut mettre Vatican II, qui est quand même une ouverture. Et il est vrai que la tradition mystique, elle est présente, à ma connaissance, hein, dans cette tradition-là. Mais Eckhart, c'est un exemple de mystique quand même, auquel tous les mystiques par la suite se référeront, y compris des philosophes qui se trouvent ici. Qui a quand même été rejeté par cette tradition-là. Donc il y a d'autres mystiques ici, surtout même après la réforme, hein, au 16e, 17e, il y a un certain nombre de mouvements qui se trouvent là, y compris les premiers pionniers américains, tout ça, qui étaient un peu borderline, un peu là, un peu là. Mais c'était toujours dangereux quand même d'enfreindre le... Mais vous avez raison, je ne devrais pas le caricaturer à ce point-là, mais je n'ai pas vraiment le temps pour développer, ni la compétence, je dois vous dire.
Pardon. Moi, je trouve que ce schéma, il reste encore trop binaire.
Tu trouves ?
Je trouve que ce qui est caricaturé, le rationalisme d'un côté... Enfin, me semble lui très caricaturé.
Oui.
Et surtout, dans l'histoire de la philosophie,
oui.
On voit quand même apparaître à la même époque que le positivisme 19e,
oui.
Tout un courant qui justement est spiritualiste et qui donnera lieu ensuite dans l'aspect existentiel,
oui.
Avec la philosophie existentielle,
oui.
Et la phénoménologie,
oui.
au 20e.
Oui.
qui justement sont critiques du rationalisme, oui. Un anti-rationalisme dans le courant philosophique, si bien que tout ce côté-là, il n'est pas du tout ignoré par la philosophie du 19e et du 20e. Bien au contraire, il est complètement valorisé. Et je crois que là où il s'est passé quelque chose en philo au 19e et au 20e, c'est précisément de ce côté-là. Moi, j'avais envie de le penser à partir de, donc, en gros, la rupture kantienne qui vient justement opérer un divorce, une rupture radicale entre la science, qui va être la recherche de la vérité, le positivisme, et puis d'un autre côté, la philosophie qui va opérer un tournant, qui va devoir se trouver un autre terrain, qui n'est plus une philosophie rationaliste, qui ne se présente plus comme ça, qui est une critique du rationalisme classique. Et je pense que ces mouvements-là, effectivement, enfin, moi, l'idée de postmoderne, hein, je la trouve un peu gonflée, enfin, un petit peu.
Oui.
Je ne crois pas que ce soit forcément là que, enfin, bon, à moins qu'on aille, qu'on revienne et qu'on retravaille contre la notion, mais je crois qu'il y a d'autres mouvements de pensée à travers le 20e. Qui remettent en question de manière beaucoup plus radicale le rationalisme classique que ce qui s'appelle le postmoderne.
Oui.
Et moi j'ai envie de tourner du côté de la phénoménologie.
Oui, alors.
Bon, c'est peut-être un petit peu long à expliquer.
Tu as raison.
Et du coup, moi, justement, parce que la phénoménologie, elle prend ses racines aussi d'un mystique, par exemple. Les grands mystiques, Maître Eckhart, Jacob Bohme.
Ils ont tous une bonne.
Ils sont repris au début du 19e siècle par la philosophie romantique allemande.
Oui.
Et ça sera repris ensuite dans Heidegger, par exemple. Il y a tout un.
Oui.
Un retour, justement, pour puiser dans ces racines-là, qui est une remise en question du rationalisme, qui n'est pas un irrationalisme, qui est un anti-rationalisme.
Oui.
Du coup, le tableau, là, je le trouve un petit peu trop caricatural,
oui.
D'autant plus que là où s'est passé quelque chose en philo, à mon sens, au 19e et 20e, c'est précisément du côté que tu as appelé esprit, qu'on est allé chercher tout ça, mais avec en plus une tentative pour dépasser la ligne de partage entre matière et esprit, justement.
Oui.
Ce qui caractérise la philo du 20e, c'est la remise en question de la ligne de partage, de la frontière entre matière et esprit, entre non seulement la philo, mais en plus même les sciences. Je ne veux pas prendre encore trop longtemps.
Oui. Non, c'est loin d'être complet ici. Si on voulait le remplir, et j'en ai plein d'autres. Il faut mettre Spinoza ici, bien sûr.
Oui, mais alors justement, Spinoza.
Il faut mettre Husserl ici, absolument.
Spinoza, c'est aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
Alors, pour moi, la ligne de partage, c'est. La ligne de partage, elle est là.
Parce que Spinoza, c'est celui qui pousse les conséquences du rationalisme jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il a été considéré. Non, mais. Donc c'est pour ça, je trouve ce tableau trop binaire, c'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas décider qui je mets où.
Non, ça dépend, ça dépend ce qu'on prend comme critère principal de pour départager. Mm. Mon critère principal, ici, ce que je souhaite suggérer, c'est celui-ci. Donc c'est pas matérialiste, spiritualiste ou rationaliste et non rationaliste. C'est est-il ou sont-ils agnostiques ou non ? S'ils sont agnostiques, ils ont une vision de l'esprit qui relève de cette tradition. Donc on critique le rationalisme avec les armes du rationalisme. Alors, le rationalisme n'a pas besoin d'être caricaturé et d'être aussi étroit que peut-être je l'ai laissé entendre par erreur. Par contre, s'ils ne sont pas agnostiques, à ce moment-là, il y a une ouverture vers une connaissance de l'esprit avec des moyens de connaissance qui ne relèvent pas de cette tradition. C'est ça que j'essaie de dire. Alors, et qui sont particulièrement mis en œuvre par les mystiques. Donc, on parle de vérité révélée, mais là, c'est encore une fois, le mot révélé, c'est le langage qui vient d'ici. Et il y a le mot intuitif est peut-être plus exact pour essayer de d'écrire ça. Chez Husserl, il y a cette volonté de revenir à l'essence des phénomènes, donc à ce qui se trouve derrière le monde auquel on s'intéresse ici. Maintenant, est-ce qu'il est agnostique ou non, Je ne connais pas assez sa biographie pour le savoir.
Dans ta colonne de gauche, c'est surtout le positivisme qui vous ramène.
Oui,
justement, à complètement.
Elle est loin d'être
complètement radicalisée.
Bien sûr. Bien sûr.
Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que justement la philosophie existentielle s'est développée.
Oui. On peut mettre Kierkegaard ici, on peut remplir, hein. Ça c'est pas difficile de remplir. C'est toujours le danger de ces schémas,
n'est-ce pas? C'est
non, ce ne sont pas les schémas. Alors là, je dois faire une petite parenthèse sur la modélisation.
Les existentialistes, vous les mettez, ça, vous mettez dans...
Ça dépend s'ils sont agnostiques ou non. Sartre, il est à gauche, mais Mounier, il est là. Gabriel Marcel, il est là.
C'est un petit peu,
ils vont
raconter les méchants.
Non, c'est pas méchant. Mais non. Alors, ma parenthèse sur les modèles, c'est tout sauf quelque chose qui nous dispense de penser. Un modèle, ça doit nous aider à penser davantage. Et là, on voit très bien qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça. Et ça, il faut le travailler. C'est pas en une demi-heure qu'on va régler cette question-là. Ça permet d'ouvrir une table de travail, et là on se met autour de la table et on travaille les choses. On prend un auteur et on se dit est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là. Si on n'arrive pas à le classer, il y a un problème avec ce modèle. Si on peut continuer à penser avec un modèle comme ça, tant mieux, il est fécond, donc on peut l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit plus fécond, jusqu'à ce qu'il nous enferme à son tour. Ça c'est le travail avec des modèles de ce type. Mais évidemment, le piège, c'est la caricature. N'importe quel prof de philo va me dire, ben non, ça ne fait pas de beau ton truc. T'as oublié un tel. C'est évident. T'as oublié les scientifiques, t'as oublié Einstein, t'as oublié Galilée. Bien sûr, ils sont tous là quelque part. Oui.
Moi, déjà, je reviens à la base. Déjà, pourquoi vouloir classer tout ça? Moi, je trouve que c'est... Je vais en parler un peu plus, c'est pour ça que ça me faisait vraiment plaisir cette idée des trois colonnes.
Ouais.
Parce que pour une fois, on arrête avec ces. Je fais un peu le cri là qui ne pouvait pas pousser certainement les trois épisodes à la salle, mais pourquoi toujours classer dans des mouvements? Certes, il y a des idées qui se regroupent, un artiste, parce que là on parlait des artistes, se classe par rapport aux artistes précédents, mais donc a eu un dogme, une idée, une idéologie. Mais pourquoi donc on devrait être toujours amené à classer les penseurs, ouais, selon des écoles. C'est là que vous avez dit quand même quelque chose, moi ça m'a fait réagir, c'est que si jamais on ne peut pas le classer, alors il faut remettre en question le schéma.
Oui.
Et ça ne peut pas être plutôt l'inverse, le schéma qui remet en question l'auteur. Et en ce sens, on verrait que l'auteur certainement est inclassable, mais il a des raisons. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer.
Oui, alors dans la deuxième proposition, c'est ce que je disais sur les modèles. Les modèles, ça doit nous permettre, ça doit nous aider à penser. Et non pas on s'arrête de penser parce qu'on a un modèle qui nous décrit la réalité. C'est pas ça un modèle. Dans la perspective d'une pensée complexe, pour utiliser les termes pour décrire ça, les modèles sont extrêmement utilisés. Mais c'est surtout pas quelque chose qui nous dit, ben voilà l'image de la réalité, c'est comme ça. Non, voilà comment on peut commencer à travailler. Il faut partir de quelque chose. Parce que si on part d'une réalité qui se présente à nous dans toute sa complexité et sa diversité, on ne sait pas par quel bout commencer à penser.
Oui, c'est pour ça donc qu'il faut certainement partir d'un schéma qui me paraît d'ailleurs moins intéressant, même si...
Celui-là aussi est intéressant.
Non, mais même le vôtre,
oui.
trois colonnes, après l'organisation interne, certainement,
trois,
je ne sais pas, là aussi c'est mes limites, mais après, à partir du schéma, et après arriver aux auteurs, aux philosophes, et non pas le schéma inverse, pas le chemin inverse.
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Là qu'on arrivera peut-être à voir, c'est trouver ce qui correspondait mieux à la place de post-moderne.
Oui.
Aussi est trop victime de ce classement-là.
Oui, postmoderne, c'est de la
comme
paresse.
Moderne, comme contemporain.
C'est de la paresse de ma part. C'est vraiment un terme.
Non, on n'a pas le choix.
Quelquefois, on peut le trouver comme autre. Mais bon, c'est pour désigner la période qui suit, justement, celle qui précède, dans un certain domaine. Maintenant, le postmoderne philosophique, il n'est pas contemporain du postmoderne qu'on vient de voir ici. Et pour ça, je te suis entièrement. le postmoderne philosophique, c'est ce qui, c'est la critique de Descartes, parce qu'il y en a eu, et la critique du scientisme, du positivisme, etc. Je ne comprends pas que ça ne puisse pas satisfaire quelqu'un qui est soucieux de faire une histoire de la philosophie aussi rigoureuse que possible, ou une histoire des idées, ou une histoire de la pensée. J'ai d'autres modèles pour décrire ça, on n'a pas le temps de le faire ici, qui me permet de penser d'autres choses. Donc comment les sciences viennent s'imbriquer dans cette histoire?
Le quatrième colonne, c'est le quatrième colonne qui se retrouve. Depuis ce soir, nous restons dans notre monde à nous, dans notre monde occidental, la raison, l'esprit, la travers, mais dans le monde actuel, on se pose des questions, mais dans le monde actuel, on se pose des questions, mais par rapport à l'islam. Donc, l'islam, à travers ce rigorisme, cette théologie dogmatique, etc., tout en sachant que dans l'islam, il y a une branche qu'on appelle le soufisme, qui serait une espérance, je pense, oui, de penser.
On pourrait faire une histoire, ce ne serait pas la même, mais l'islam est tout à fait présent, même dans cette histoire de la conscience chrétienne. Mais dans l'islam, on a quelque chose d'analogue à cela, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une forme de dogmatisme qui est également... Il y a un livre de référence. Il y a les excès dans ce sens-là, et il y a les excès dans l'autre sens également. Où il y a la contestation de ce côté-là, et il y a la contestation de ce côté-là. Il n'y a pas les bons et les méchants, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Mais il y a des tentatives de penser au-delà de ce qui est, de ce qu'on nous dit de penser, soit en le tirant de ce point de vue-là. Alors on a évidemment toute la science arabe et l'aristotélisme qui se trouve plutôt de ce côté-là. Et ici, on a une tradition mystique dans l'islam. Vous avez mentionné les soufis. Il y a eu un mouvement extrêmement important au Xe siècle, les Ismaéliens, etc., avec des propositions extrêmement audacieuses de tout ce côté-là, et qu'on commence à s'intéresser de nous. Après, la question se pose, comment l'islam et la chrétienté, aujourd'hui, comment on fait avec ces choses? Par exemple, le fait qu'on pourrait se reconnaître dans une histoire commune quelque part, au niveau des tentatives de sortir des dogmatismes, ça pourrait peut-être aider. Le postmoderne de l'islam, on n'est pas dans des concordances temporelles tout à fait analogues. Mais chacun a son histoire à faire. Mais dans le monde dans lequel on est, on peut peut-être s'aider à faire son histoire et de se la re-raconter d'une façon qui soit plus adéquate pour ouvrir vers le futur plutôt que pour le faire. C'est peut-être comme ça que je le dirais. Il faut nous re-raconter. D'ailleurs, c'est le thème de la saison prochaine, le thème de l'histoire et de la mémoire. Comment on se raconte l'histoire? Est-ce qu'on est satisfait de la façon dont nous nous racontons l'histoire de notre conscience, par exemple, collective, notre façon de nous représenter le monde et de concevoir le monde? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres histoires qui seraient peut-être plus adéquates, encore une fois, pour donner du sens à ce qu'on vit aujourd'hui, en sortant des schémas peut-être trop contraignants? Mais c'est sous forme de question un peu. Que je vous forme. Ah ben, s'il n'y a plus que des questions sur le corps,
monsieur tout le monde, compris chez moi. On peut se séparer, l'un d'entre vous, mais la semaine prochaine, pour les sociétés de verre, on va parler de la société de verre.
Merci. Merci.